On est toujours en direct sur Radio PFM 99.9 pour cette journée sans ordi 3. Toujours dans le créneau du Radiolab, les jeunes journalistes de Radio PFM. On accueille deux nouveaux invités. On a Sébastien Penier qui est à la fois sociétaire de la Caisse des écoles d'Arras et Malvina Pétain qui est conseillère numérique pour la ville d'Arras. Ils et elles sont au micro de Louise, Charlie et Clémence.
Bonjour Sébastien Penier, vous avez une double casquette. Vous êtes à la fois membre sociétaire de la Caisse des écoles d'Arras et membre du parti Pirate, un parti politique européen, avec une forte identité numérique. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que la Caisse des écoles ?
Bonjour et tout d'abord et merci pour l'invitation. Alors la Caisse des écoles, c'est l'organisme de la ville d'Arras qui s'occupe du bon fonctionnement des écoles primaires et maternelles, et aussi du périscolaire, c'est-à-dire tout ce qui s'appelle de l'aide aux devoirs ou des problèmes d'orthophonie, enfin des problèmes liés aux enfants spécifiquement. Donc la Caisse des écoles, c'est composé de membres de la ville d'Arras, donc 6 membres de la ville d'Arras, d'un délégué du préfet, d'un membre de l'inspecteur d'académie de l'éducation nationale et de 7 membres sociétaires, donc qui sont des représentants de parents d'élèves ou des personnels de l'éducation nationale, des directeurs-directrices ou des enseignants. Et donc le rôle principal, c'est le bon fonctionnement des écoles. Donc ça chapeaute notamment les voyages de fin d'année, principalement, la mise à disposition de matériel, donc ça peut être des photocopieuses, des vidéoprojecteurs, et aussi le financement d'ateliers à la demande des écoles. Donc ça peut être des sorties, ça peut être des ateliers de jardinage, des ateliers radio PFM, comme c'est déjà arrivé. Tout ce qui a besoin de financement et pour mettre en place, pour ouvrir un petit peu l'esprit des élèves un petit peu à tout. Donc principalement quand même en élémentaire, en maternelle, ils sont un petit peu petits.
Charlie ?
Oui, depuis combien de temps vous faites partie de cet organisme et quelles sont les grandes mesures que vous aviez prises ? Qu'est-ce qui nous a plus marqué ?
Alors, à titre personnel, ça fait 5 ans que je suis à la Caisse des écoles. Donc, j'ai 2 enfants qui ont 3 ans et 7 ans. Donc, quand le premier arrive en maternelle, je me suis toujours investi dans leur éducation. Donc, j'ai été parent d'élèves, puis j'ai postulé je me suis fait lire à la Caisse des écoles. D'ailleurs, j'en profite, il y a un renouvellement du bureau très bientôt qui aura lieu le 2 juin.
Petite page pub.
Simplement aux parents d'élèves qui veulent s'investir, n'hésitez pas en fait. Chaque année, à la rentrée, vous avez un petit document pour dire venez adhérer en tant que parent d'élèves. Et au moins, si vous voulez savoir le fonctionnement interne des écoles, les prises de décision, les règlements, si vous avez des bonnes idées, si vous avez des problèmes, des choses que vous voudriez mettre en place, surtout n'hésitez pas. On est des gens bienveillants et de bonne humeur, on essaye de faire au mieux pour que, encore une fois, que les élèves aient tous les moyens pour s'épanouir dans leur scolarité.
Alors, une des raisons pour lesquelles on t'a invité aujourd'hui, c'est parce que justement, il y a la mise en place d'actions éducatives autour du numérique, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors oui, effectivement, dans l'enseignement, le numérique, comme on a entendu Clotaire en parler auparavant, mais d'autres intervenants, le numérique, c'est dans notre vie à tous, de tous les jours en permanence. Hein, et dès le plus jeune âge, il y a des bonnes pratiques à apprendre, à mettre en place, pour les élèves et pour les parents, les deux. Car souvent, les élèves assimilent assez facilement, mais les parents ne sont pas toujours éduqués. Et donc, dans ce cadre-là, j'avais, comme je connais Malvina, là, qui est ici, je les avais mis en relation avec la directrice de l'école La Fontaine. Et les choses ont été très vite et ils ont mis en place un atelier que les enfants ont apparemment ont adoré. Mais je vais laisser la parole à Malvina, elle en parlera mieux que moi.
Donc, on est avec Malvina Pétain. Donc, tu es conseillère numérique à la ville d'Arras, c'est ça ?
Oui, donc bonjour, merci pour l'invitation. Donc effectivement, je suis conseillère numérique depuis octobre 2021 au centre social Arras Ouest, donc un centre social municipal. Il faut savoir qu'à Arras, il y a un conseiller numérique dans chaque centre social. Et nos missions sont d'animer à la fois des ateliers collectifs pour permettre à tout un chacun d'utiliser son matériel en toute sécurité, d'être plus à l'aise au quotidien avec la messagerie, avec les visios, avec des démarches administratives. Et on intervient aussi de manière plus ponctuelle, donc dans les écoles par exemple. à la demande des professeurs. On peut aussi intervenir dans les collèges ou dans les lycées. Et donc, j'ai rencontré Sébastien lors de la semaine de la parentalité qui a lieu tous les ans en octobre. Et lors de ce temps d'animation, il s'agissait en fait de sensibiliser les enfants et les parents aux bons usages des réseaux sociaux, et notamment sur les chats. En fait, vous savez, il y a beaucoup de jeux en ligne, hein, Roblox, c'est un peu à la mode en ce moment. Et en fait, les enfants chatent sans que les parents soient forcément au courant. Voilà, donc il s'agissait, sans dramatiser, d'expliquer aux enfants et aux parents comment être vigilants là-dessus. Et en discutant avec Sébastien, qui était présent sur ce temps, on a pris contact. Et après avoir pris contact avec la directrice de l'école, La Fontaine, j'ai mis en place avec les professeurs et mes collègues conseillers numériques des ateliers donc sur l'intelligence artificielle dès la primaire. Parce que ce que Clotaire indiquait tout à l'heure, c'est vrai, il y a énormément d'enfants qui utilisent l'intelligence artificielle, même les petits. Chez les CM2, il y avait à peu près un tiers de la classe qui indiquait utiliser déjà ChatGPT pour travailler sur des exposés ou ce genre de choses, en fait. Donc voilà, c'est une réalité. Et donc, à l'issue de ces ateliers, il apparaît que les enfants, en fait, sont très lucides et très conscients sur ce qui se passe dans le numérique. Il ne faut pas croire, en fait, que les enfants sont naïfs. Et donc, ça va permettre, en fait, on espère, d'essaimer un peu ces actions dans les autres écoles de la ville d'Arras. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite.
Louise.
Et justement, vous parliez de votre intervention à l'école La Fontaine. Comment ça s'est déroulé? Qu'est-ce que vous avez mis en place là-bas avec les enfants?
Alors, il y a eu plusieurs temps. On est d'abord parti des réseaux sociaux, parce qu'en fait, c'était déjà une demande de la directrice. Les enfants, dès le CM1, CM2, utilisent les réseaux. Et ça peut créer parfois des tensions. Il y a parfois des enfants qui croient certaines rumeurs, des choses qu'ils peuvent lire sur les réseaux qui sont fausses. Donc, sous un format un peu ludique, de débat, de discussion, les enfants ont expliqué comment ils utilisaient les réseaux sociaux, pourquoi ils les utilisaient, ce qui pouvait aussi les inquiéter, parce qu'ils ont des inquiétudes. C'est pas parce qu'ils les utilisent qu'ils sont inconscients. Donc ça, c'était une première séance. Et puis, ensuite, on a travaillé d'abord sur un escape game sur l'intelligence artificielle. Donc ça, c'était dans le cadre du mois du numérique. Tous les ans, la communauté urbaine d'Arras participe au mois du numérique. Et cet escape game avait pour objectif d'expliquer aux enfants qu'un prompt, qu'une image générée par intelligence artificielle, on peut la repérer si on est vigilant. Les fake news, on peut aussi les repérer si on fait attention. Et à l'issue de cet escape game, en fait, il y a eu deux séances de création de fake news. Voilà, les enfants ont d'abord utilisé leur intelligence naturelle pour créer une fausse info. Et puis après, ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour générer une image et sortir un petit article sur cette fake news.
Donc c'est de la formation à la désinformation, c'est ça? Ou alors c'est parce que le fait de créer une fake news, ça fait réfléchir sur les processus un petit peu, c'est ça?
Voilà, en fait, la première séance, il s'agissait de montrer aux enfants pourquoi il y a des gens qui, sur les réseaux sociaux, diffusent des fausses infos. Voilà. Donc ça, les enfants ont assez vite compris que ça pouvait être pour gagner de l'argent. Ils m'ont parlé des influenceurs. Ça pouvait être aussi juste pour s'amuser, faire un petit peu le buzz. Et puis, ça pouvait aussi être à des fins de manipulation. Alors, les enfants sont très conscients, en fait, de ces mécanismes-là qu'on peut manipuler l'opinion pour qu'on vote ou pas pour quelqu'un. Et puis après, on a parlé d'un concept qui n'est pas facile à comprendre pour un enfant, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Vous savez, dans notre cerveau, il y a des biais, des inconscients, des a priori, qui font qu'on va croire telle ou telle information, même si on a un peu l'idée qu'elle est fausse. Le biais émotionnel, hein, une info qui va nous effrayer, on va avoir tendance à y croire. Le biais d'autorité, si c'est un scientifique ou si c'est un adulte qui va en parler... on va y croire aussi. Donc tout ça pour leur expliquer simplement pourquoi les gens créent des fake news et comment nous on y croit. Et puis après, il s'agissait d'utiliser Internet pour repérer parmi des infos qu'on leur avait données ce qui était vrai, ce qui était faux. Donc là, ça leur permet aussi de faire des recherches, de voir comment on fait une bonne recherche sur Internet. Et puis à la fin, l'objectif, c'était de voir comment on construit un article de journal et de créer une fausse info à partir de là.
Quand on fait ce genre de formation, quand on dispense ce genre de formation, on peut vite tomber dans un peu le manichéen, les bons usages, les mauvais usages, le bien, le mal. Ça, c'est des choses quand même assez compliquées quand même. Et comment vous faites par rapport à ça pour, voilà, aussi pour que ça ne soit pas trop descendant
Alors en fait, avant d'être conseillère numérique, j'étais enseignante, donc j'étais professeure de littérature et j'ai une formation de formatrice. En fait, je suis ingénieure dans la formation, donc mon métier en fait depuis plus de 20 ans, c'est de construire des programmes de formation. Et en fait, quelle que soit finalement la matière, bah, l'idée c'est de donner des outils, d'être pédagogue pour que que ce soit les enfants, les adultes, que ce soit l'apprentissage d'une langue, l'apprentissage d'une matière ou utiliser un outil, bah, en fait, les enfants ou les personnes soient dans l'action. Voilà, donc ça c'est... Bah, c'est un métier, hein, mais il y a des outils en fait qui permettent de faire participer les gens et les enfants. En tout cas, ça c'est ce qui est important. C'est la façon dont vous allez amener votre animation. Il fait que les enfants ou les adultes d'ailleurs vont prendre part à l'animation et en fait leur expliquer que moi je suis pas spécialiste en éducation. Je ne suis pas scientifique. Je ne suis pas là pour dire justement ça c'est bien, ça c'est pas bien. Parce qu'en fait, en termes d'éducation, quand on est parent, moi je suis parent d'adolescent et je me pose les mêmes questions que Sébastien peut se poser, que vos parents peut-être aussi peuvent se poser en disant bah oui, mais comment je fais ? D'un côté, il faut donner le téléphone, de l'autre côté, il faut faire attention. Donc justement, on est là aussi pour leur donner des pistes et dédramatiser ça et pas être descendant.
Est-ce que dans les échanges que vous avez aussi, il y a la question du coût écologique, très très important. Ce matin, on avait un entretien avec un sociologue qui parlait de 1,5 milliard de téléphones portables vendus chaque année. Avec toutes les ressources naturelles que ça implique. En eau, en minerais, etc. Il y a aussi la question un peu de l'organisation de la société. On va vers le capitalisme numérique. Est-ce que, je ne sais pas si en CM2, c'est peut-être un petit peu compliqué de parler de capitalisme numérique, mais est-ce que c'est des choses dont vous discutez avec les différents publics avec lesquels vous faites ces formations ?
Tout à fait. En fait, on ne peut pas parler de numérique sans parler des enjeux environnementaux, sans parler...
De politique.
Parce que ça fait partie du numérique, et tout simplement. Ce que Sébastien évoquait tout à l'heure, ou même un peu quand on en parlait en aparté, de tout ce qui est le RGPD, hein, le Règlement Général sur la Protection des Données, ce genre de choses, évidemment qu'on est obligé d'en parler. Les enjeux environnementaux, les enfants les comprennent très bien. Ils sont très, très lucides sur ce que font par exemple leurs parents. Ils savent combien il y a de téléphones usagés à la maison. Et nous aussi, quand on propose des formations aux adultes, l'objectif, ce n'est pas de les faire consommer. Au contraire, l'objectif, c'est de dire comment vous pouvez utiliser votre matériel de manière optimale. On leur explique qu'ils peuvent tout à fait acheter du matériel d'occasion sans problème. Qu'ils peuvent réutiliser le matériel, comment on peut le valoriser de manière la plus écologique possible.
Je vous propose de faire une petite pause musicale et puis on se retrouve juste après. Thank you. On écoutait ensemble le regretté saxophoniste américain Pharoah Sanders avec ce titre Astral Traveling, maintes fois samplé par tant de personnes. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio PFM sur le 99.9, toujours dans cette journée sans ordi 3 en direct. On est toujours en compagnie de Malvina Pétain, qui est conseillère numérique au Centre Social d'Arras Ouest, Sébastien Penier, qui est parent d'élèves, sociétaire de la Caisse des Écoles et membre du Parti Pirate. Et c'est de ça dont on va parler maintenant au micro de Charlie, Louise et Clémence du Radiolab.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du Parti Pirate ?
Alors, on va commencer par un petit historique. En fait, le Parti Pirate, c'est un parti politique qui a été fondé en 2009 en Suède. Donc, c'est un parti européen. C'est pas que français, c'est européen même un petit peu plus que ça. Pour la petite histoire, ça a été fait par les fondateurs de Pirate Bay, qui à l'époque étaient, certains connaissent peut-être, ceux qui avaient été chargés illégalement, qui dispensaient de la musique, des films, etc. Et comme ils étaient dans l'illégalité et ils ont eu l'industrie numérique un petit peu sur le dos, ils se sont dit, puisque la loi est mauvaise, on va changer la loi. Et c'est de là qu'est né le Parti Pirate. Donc avec un peu comme l'idée de que la culture... Effectivement, que quel que soit l'artiste, il a le droit à des droits d'auteur et être propriétaire, mais qu'au bout d'un certain temps, d'un certain délai raisonnable, que les œuvres appartiennent au bien commun, en fait, tout simplement. Quand les droits d'auteur, à l'époque, il y a toujours des musiciens ou des petits-fils de Michael Jackson qui touchent toujours des droits, alors qu'on pourrait raisonnablement penser que ça pourrait être un bien commun, et qu'ils ont assez palpé, tout simplement. Donc dans les grandes lignes, historiquement, c'est né un petit peu comme ça. Le nom pirate, d'ailleurs, ne vient pas du parti pirate, c'est l'industrie numérique qui les a dit, mais vous êtes des pirates. Et donc, le nom est resté. À savoir que dans les pays nordiques, la connotation n'est pas tout à fait la même qu'ici. Les pirates, c'est un synonyme de liberté, et c'est une des principales valeurs qu'on défend, c'est la liberté. Ici, c'est une petite connotation un petit peu anti-système, anti-beaucoup de choses, alors qu'en fait, voilà, le vrai fond des choses, c'est la liberté. La liberté individuelle, la liberté, le partage, la liberté de faire des choses qui sont... Les libertés sont assez malmenées ces derniers temps, surtout dans le numérique, je pense qu'on va en parler après. Et donc, c'est une des valeurs qu'on défend. Et on n'est pas non plus cantonné que numérique. Avec l'évolution du temps, on a des programmes, des idées, des choses à soumettre sur beaucoup de points, notamment le transport, la santé, le logement, le mal-logement même, j'ai envie de dire. Et puis un petit peu tous les pans de la société, parce que, au sens politique du terme, la politique, c'est avant tout construire un projet de société et de bien vivre ensemble, en premier lieu.
Et comment avez-vous connu ce parti et l'avez rejoint ?
Alors, j'ai adhéré à l'époque, je m'y suis intéressé à l'époque de la loi Hadopi, donc ça devait être dans les années 2008-2009 à peu près. J'habitais à Toulouse à l'époque et il y avait la fondation de la section du Parti Pirate de Occitanie qui était à Toulouse, donc je m'étais intéressé un petit peu à ça. Et puis aussi parce que, quelque part, je suis un citoyen qui pense que c'est un devoir d'aller voter, mais je me sentais, et toujours d'ailleurs maintenant, absolument représenté ni de près ni de loin par personne. L'offre politique actuelle, sans tomber dans la démagogie, je la trouve, je ne vais pas dire consternante, mais il n'y a pas grand-chose. En gros, si vous n'êtes pas d'extrême droite ou de gauche extrême, les gens raisonnables, pragmatiques, c'est des choses qui sont des personnes qui sont très peu représentées. C'est pas pour rien que beaucoup de gens, quand je parle, s'intéressent à la politique, mais très peu vont voter, parce que juste par manque d'idées nouvelles et de représentativité, justement. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là que je me suis intéressé à l'époque au Parti Pirate. Après, je suis allé vivre à l'étranger. Quand je suis revenu en France, il y a 6 ans maintenant, il y a eu un appel à candidature, justement, pour les législatives. J'ai fait, j'y vais. Et depuis, j'y suis resté. Donc, ça fait bien 5 ans, on va dire, que je suis membre actif du Parti Pirate. Et on est nombreux, on est tous bénévoles, tous... on est plus des gens indépendants qui ont envie de défendre leurs idées, mais qui muent par une motivation commune. Donc tout le monde est le bienvenu, il y a des gens ouvertement avec d'autres étiquettes politiques, mais il y a des bonnes idées à prendre partout et à mettre en œuvre, et on est toujours ouvert à la discussion. On a un mode interne très démocratique, et ça c'est quelque chose à mettre en avant aussi. Donc toutes les décisions sont discutées, sont argumentées, et sont soumises au vote. Et les choses votées sont mises au programme du parti, et portées par les élus. Parce qu'on a des élus, on est un parti émergent, mais on a des élus. Notamment la tête de liste européenne, donc Caroline Zorn est vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg. On a 4 élus à Marseille qui ont les délégations numériques, donc qui ont fait énormément de choses pour la ville de Marseille au niveau du numérique. Donc par exemple l'adhésion de la ville à l'Institut du numérique responsable, à d'autres labels comme April récemment, et qui là actuellement sont en train de déployer l'IA pour les agents municipaux de manière intelligente, c'est-à-dire sans être technophobe ou avoir peur. Ou quand on met le sujet de l'IA en général, les gens ont peur d'être remplacés, ils ont eu un peu une appréhension parce que c'est des choses nouvelles, mais c'est comme un peu tout ce que j'entends depuis ce matin, et comme Clotaire le disait avant, le numérique et l'IA, ce qui est important, c'est la formation en fait. Le numérique en général, ce ne sont que des outils, comme tout, comme on en parlait avec Malvina avant, on a eu le même discours à l'époque de la naissance d'Internet, à l'époque du Minitel, à l'époque du jeu vidéo. Voilà, ce ne sont que des outils et le tout, c'est de les adapter, de les utiliser correctement. Et donc d'être formé, en fait, principalement. Le fond du sujet, c'est ça.
Charlie ?
Ok. Donc vous êtes intégré ce parti il y a maintenant quelques années. Quelles fonctions occupez-vous auprès de ce parti ? Vous êtes plutôt quoi ?
Alors au niveau des fonctions, je suis, on va dire, un petit peu, ça fait 4-5 ans, j'ai été délégué du Parti Pirate français lors de l'Assemblée Générale au Parti Pirate européen. À Prague, là j'ai eu la chance de voyager à Prague. Et puis je fais partie de l'équipe communication. Donc comme on est tous bénévoles, on est très organisés. Donc on est regroupés par équipage. On a gardé un petit peu la rhétorique pirate. Donc par équipage, soit géographique, soit thématique, parce qu'il y a des gens par leur passion, par leur métier, qui vont plus s'investir sur un thème, le logement, la santé. On a les jeunes pirates. Enfin voilà. Donc chacun est libre et puis on peut changer simplement d'équipe en fonction des besoins. Et donc actuellement je m'occupe un petit peu de la communication. Comme je vous l'ai dit, je m'étais présenté donc aux législatives en 2022. Les dernières en 2024, on a fait le choix de ne pas présenter de candidat et donc de renoncer au financement public. On avait eu accès pour la première fois aux législatives en 2022 au financement public. On a décidé d'y renoncer parce que déjà, il faut se souvenir, se remettre un petit peu dans l'époque, la dissolution, et donc il y a eu une semaine pour présenter des candidats. Donc c'était très compliqué déjà d'un point de vue concret. Et puis aussi pour éviter de prendre des voix, et concrètement, notre position, ça a été de faire barrage au Front National, tout simplement, hein, même si la théorie... La technique du castor et du barrage, elle n'est plus très efficace. Hein. Mais bon, voilà, d'un point de vue politique, puisqu'on parle de ça, on est... Alors, on trouve que c'est un peu une mauvaise grille de lecture, la droite, la gauche, voilà, on est plutôt centre-gauche, on va dire, mais on est, voilà, on va défendre, on est toujours en opposition en France, d'un côté l'argent, d'un côté le social, alors que c'est pas des choses en opposition, c'est des choses qui vont ensemble, et le tout c'est de savoir où on met le curseur avec les moyens qu'on a. Donc voilà, c'est un petit peu la façon de voir les choses. Donc les gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'être appuyés, épaulés, il faut les aider. Mais il faut d'un autre côté garder l'esprit, la possibilité d'entreprendre, de garder de son travail, de travailler. On a beaucoup de gens qui sont entrepreneurs et qui bossent dans l'informatique chez nous, par exemple. Donc voilà.
Alors on a bien compris, c'est un parti politique qui a des points de vue sur tous les sujets sociétaux. Mais puisque aujourd'hui on parle du numérique dans cette journée sans ordi, on va essayer de se concentrer là-dessus. Quels sont un peu les éléments de programme concernant les enjeux politiques du numérique que porte le parti pirate ?
Alors un des fondements déjà au niveau du numérique au sens large, c'est l'éducation. L'éducation le plus tôt possible et pour tout le monde. Malvina doit être confrontée assez souvent, quelles que soient les générations, y compris justement peut-être les personnes les plus âgées qui n'ont pas toujours accès au numérique. Déjà, on est dans un monde où de plus en plus dématérialisé, que ce soit pour des démarches administratives ou en fait toutes les démarches de notre vie, et des personnes ne sont vraiment pas à l'aise soit à l'ordinateur, soit au smartphone. Et voilà, c'est d'avoir la possibilité d'avoir accès simplement à tous les services qui paraissent, on va dire, anodins pour la plupart des gens, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés. Et aussi l'éducation dès l'école, pour les plus jeunes, et aussi sur les enjeux liés au numérique en général. Donc on va parler d'IA, on peut parler un peu de crypto-monnaie, on peut parler de chat control par exemple, des lois qui ont été faites sur les messageries dernièrement, enfin qui ne sont pas passées, mais où ça pousse pour passer. Parce que si on peut prendre, il y a des lois dans ce sens-là, où le gouvernement récemment a essayé d'introduire des backdoors dans toutes les messageries privées, enfin voulait ça, c'est-à-dire concrètement les WhatsApp, Signal, Telegram, d'aller à la pêche en fait, sous couvert de lutte contre le narcotrafic et la pédocriminalité. Donc bien évidemment qu'il faut lutter ardemment sur tous ces sujets, mais le fait, c'était plutôt une porte ouverte à la surveillance de masse. Parce que concrètement, quand on veut imposer à des messageries cryptées de pouvoir d'avoir une porte et un moyen d'entrer, ça finit toujours où un petit malin ou un pirate lui arrive à ouvrir cette porte, et donc c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Et concrètement, ce sont plus des sujets qui ont été politiques et idéologiques. Mais il ne faut pas oublier que dans le numérique, il y a aussi une histoire de compétences et de compétences techniques. Et donc, c'est des sujets sur lesquels on est plutôt pas mal positionné parce que sans compétences, c'est peut-être une bonne idée sur le papier de dire ça serait bien si on pouvait aller surveiller un petit peu tout ça. Mais dans le technique et dans la mise en place, c'est juste pas possible en fait. En sachant que ça serait plus utile pour lutter contre ces sujets ou sur les trafics de drogue ou les images pornographiques. Il y a déjà des lois et des moyens en place techniques. C'est surtout un manque de moyens humains et de moyens techniques. Ce n'est pas une énième loi pour ouvrir la porte à tout. C'est un peu comme si on disait ce qu'on vous dit dans les messageries, le discours qui était tenu, c'est on va aller, vous n'avez rien à craindre si vous êtes en règle, vous n'avez rien à craindre, on peut aller voir vos messageries. Déjà, c'est une liberté fondamentale et individuelle de pouvoir correspondre librement. C'est comme si on disait vous envoyez des cartes postales ou des lettres par courrier, on va ouvrir tous vos courriers et puis on verra. Puis s'il n'y a rien à cacher, vous n'avez rien à craindre. Non, c'est pas ça une liberté fondamentale.
Puisqu'on parle d'accès aux données, c'est vrai que toutes et tous, si on est sur un ordinateur, un smartphone, etc., on donne beaucoup d'accès à ces données à des grandes entreprises. Comment vous voyez ça et comment vous vous positionnez de manière générale par rapport au capitalisme numérique qui absorbe un peu tout sur Internet ?
Alors, l'accès aux données, déjà, si elle est consentie librement et explicitement, en soi, ce n'est pas un problème. Si vous acceptez le fait que Google, vous avez votre GPS qui a vos données, donc votre localisation, et qui peut retracer votre parcours. Si vous acceptez le fait de l'avoir gratuitement par Google, mais que ça ne vous dérange pas de les donner, donc pour que ça soit utilisé, hein, donc c'est utilisé, ça peut être utilisé par l'IA notamment en ce moment, mais à beaucoup de fins. Si vous êtes au courant et que vous l'acceptez, aucun souci. Le gros problème, c'est que toutes ces données sont la plupart du temps non consenties. Si elles partent un petit peu dans la nature. Donc ça sert à entraîner l'IA, mais pas que ça. Je pense qu'on est un peu tout sollicité 5 fois par jour pour vendre des panneaux solaires ou avoir un nouvel opérateur mobile ou de fournisseur d'électricité. Et ben, c'est parce que vos données ont fuité, donc votre email, votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, et tout ça finit dans des bases de données qui sont utilisées illégalement par des centres d'appel. Donc au niveau européen, on est plutôt, on va dire, relativement protégé grâce au RGPD, parce que c'est des choses qui sont au niveau des entreprises contraignantes et un petit peu. Donc le RGPD est plutôt pas mal fait, faut dire ce qui est, mais il n'est pas forcément bien mis en œuvre et bien mis en place. Mais bon, dans le reste du monde, si vous allez aux États-Unis, en Chine ou que ce soit, l'utilisation des données, c'est un sujet qui leur passe par-dessus la tête. Et la plupart des gens ne sont pas éclairés d'ailleurs sur ces sujets-là, parce qu'ils pensent que c'est pas très important. Mais en fait, si, c'est très important. Vos données, c'est vous, c'est votre identité numérique, c'est votre vous numérique, en fait, tout simplement. Et ça peut avoir des conséquences désastreuses de certaines fois.
Malvina, oui, je vois que tu hoches de la tête, si tu voulais dire quelque chose.
Oui, en fait, ce que dit Sébastien est tout à fait juste. Ce sont des éléments, en fait, qu'on apprend, que nous, on enseigne, qu'on explique, que ce soit aux seniors ou aux enfants. En général, les seniors sont un petit peu inquiets quand ils vont sur un site internet et ils voient autoriser, refuser les cookies. Il suffit de leur expliquer ce que c'est qu'un cookie, ce que c'est qu'une donnée personnelle. Et ils comprennent, en fait, s'ils vont sur le site de Marmiton et qu'ils refusent les
cookies. On peut pas refuser un cookie de Marmiton.
Alors voilà, eux ils disent si je refuse les cookies, je peux plus voir les vidéos qu'il y a sur le site ou autre. Mais en fait, comme dit Sébastien, si on est clairement conscient et qu'on comprend ce que c'est qu'une donnée, ce que c'est qu'un cookie et ce que le site va en faire. On l'accepte en toute connaissance de cause et c'est comme ça. Mais là où effectivement c'est pas toujours très clair, c'est déjà pour les enfants, parce que sans rentrer dans des considérations de droit, les réseaux sociaux un enfant peut être sur un réseau social à partir de 15 ans sans l'accord de ses parents, mais il signe un contrat. Quand vous cliquez sur j'accepte les cookies, c'est comme si vous signiez un contrat. C'est la même valeur juridique. Sauf que normalement, pour signer un contrat, il faut être majeur. Donc en fait, ce sont des exceptions qui ont été faites à la réglementation, on va dire, normale. Mais si on ne vous l'explique pas, et si vous, en tant que parent ou en tant qu'éducateur, ou en tant que prof ou autre, vous ne l'expliquez pas aux enfants ou aux adolescents, ils vont pas savoir en fait ce qu'ils acceptent. Quand ils cliquent sur j'accepte ou je suis majeur, oui, j'ai plus de tel âge, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Quelles sont les conséquences? Ça, c'est vraiment important de l'expliquer aux enfants, qu'une photo, vous la mettez sur Internet, elle y reste tout le temps. Et que peut-être, à l'époque, vous étiez OK pour mettre sur un réseau social pour vous amuser, une fête d'année, vous vous étiez déguisé en je ne sais pas quoi, mais que quelques années plus tard, vous n'allez peut-être plus l'assumer de la même façon. Et que pour l'enlever, c'est super difficile. Ça, les enfants comprennent très bien. On leur explique aussi ce que c'est qu'un algorithme, comment ça fonctionne, et ils comprennent. Si je regarde plusieurs fois des vidéos du même artiste, c'est pour ça que sur TikTok, j'ai toujours des vidéos qui me plaisent. Et que du coup, tu as donné une information sur toi. Tu as mis un petit like sur une petite photo de chat, tu as commenté telle chose, tu scrolles, tu passes quelques secondes sur une vidéo ou tu passes plus de temps sur telle vidéo. Ce sont des informations que tu laisses sur toi. Et la nette étiquette, c'est vraiment important.
Et d'ailleurs, on a une surprise pour vous, puisqu'on a cherché sur Internet et donc on a des photos de vous Alors, c'est à une... Non, je déconne.
Vous pouvez tester. Alors ça, c'est un sujet très intéressant, en fait, très important, ce qu'on appelle la net étiquette. Il y a de plus en plus d'employeurs qui googlent, vous savez, qui font des recherches comme ça sur de futurs salariés. Et vous pouvez chercher, Malvina Pétain, il n'y a aucun problème là-dessus. tout va bien, ma net étiquette, elle est pas mal. Il n'y a pas grand-chose, mais effectivement... En fait, ce que vous dites, c'est très important.
Alors, je regarde autour de la table s'il y a des questions. Peut-être une des... la ministre de l'Éducation récemment a parlé d'interdire, de réguler en tout cas l'utilisation des portables dans les collèges, hein, lycées aussi, je ne sais plus.
Collège, je crois.
Collège. Par exemple, ça, le Parti Pirate, qu'est-ce qu'on dit le Parti Pirate? Et puis, de manière générale, comment vous voyez un petit peu la politique actuelle du numérique en France? Grosse question. Hein.
Grosse question. Alors, on n'a pas statué spécialement, on en discute sur justement l'interdiction du téléphone. Alors, encore une fois, je dirais de manière générale, c'est un outil. Donc, voilà, le tout, c'est de l'utiliser correctement. Alors, effectivement, si c'est pour prendre son téléphone et passer sa vie sur ChatGPT pour répondre à tout, bah, effectivement, développer l'esprit critique, éduquer, inculquer, on va dire, une des missions premières de l'école, c'est, voilà, ça peut peut-être poser problème. Parce qu'il y a peut-être des dérives, mais interdire, enfin, voilà, c'est toujours le même sujet, c'est toujours la même chose, c'est toujours interdire. Non, c'est mieux d'éduquer, c'est mieux d'expliquer. Alors, ça marche pas à 100%, ça marche pas avec tout le monde, mais interdire, c'est pas une solution non plus, de toute façon. Et voilà, donc il y a je pense qu'il y a des dérives, peut-être des dérives un peu de certaines personnes au lycée, et encore, de toute façon, ça va leur apporter quoi au final? Pas grand-chose. Alors effectivement, se déconnecter, lâcher un petit peu les téléphones, quelquefois, voilà, pourquoi pas. Mais enfin, dans l'éducation nationale, quasiment tout le monde, ils ont déjà des tablettes, des téléphones pour travailler, des ordinateurs. Donc je pense que c'est surtout une mesure démagogique en premier lieu. Et puis je pense que ça solutionnera pas grand-chose. Quand on voit pareil, notre ministre de l'Éducation qui veut qu'on choisisse sa voie dès la maternelle. Enfin voilà, il y a un petit peu des choses qui sont à côté de la plaque. Et ça ferait mieux de bosser un petit peu les compétences et les sujets de fond. Mais donc on n'a pas spécialement pris parti sur ce sujet spécifique, mais en fait la base, toujours pareil, c'est l'éducation et l'information. Voilà. Ce ne sont que des outils, le numérique, que ça soit l'IA, que ça soit le téléphone, les réseaux sociaux, le tout c'est de l'utiliser correctement, c'est surtout ça. Et de garder un esprit critique aussi. Quand c'est pour aller chercher rapidement des informations, je sais pas, des choses factuelles, historiques, voilà, c'est rapide, c'est utile, ça fait gagner du temps. Mais pour que ça soit ChatGPT, vous posez votre question ou vous prenez une photo de votre copie pour que voilà, vous voulez que ChatGPT réponde et vous relisez même pas le texte et vous l'envoyez, il est où l'intérêt en fait? C'est à l'école, c'est pour apprendre à être éduqué avant tout. Mais comme disait Clotaire tout à l'heure, il en parlait un peu avant, c'est pas c'est minoritaire encore, enfin, c'est pas la majorité des étudiants qui font que ça, et fort heureusement.
Merci, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres points peut-être du programme concernant le numérique que tu voulais développer, Sébastien.
Je pense qu'on a un petit peu fait le tour au niveau du numérique. Voilà, l'essentiel, encore une fois, je vais le dire, formation et utilisation aux usages. Et utiliser correctement les choses. Et pour tous les âges. Notamment, on parlait des écoles, c'est les parents. Il faut penser aussi à éduquer les parents et sensibiliser aux écrans. Parce qu'on parle des enfants, mais c'est souvent les parents qui ont des mauvaises pratiques. Donc c'est important aussi, toutes les générations en fait. Il n'y a pas que le sujet des écoles, c'est beaucoup plus large. Parce que le numérique ça régit la vie de tout le monde en fait. Concrètement, qui n'utilise pas son téléphone ou son ordinateur pour... dès qu'il y a un truc, on sort son téléphone la plupart du temps. Mais donc voilà, faire attention à l'usage de nos données et la façon dont on les utilise.
On était avec Sébastien Pognier, qui est parent d'élèves, sociétaire de la Caisse des écoles et membre du Parti Pirate. Et on était aussi avec Malvina Pétain, qui est conseillère numérique au Centre Social Arras-Ouest. On fait une petite pause musicale et puis après on retrouve des chroniques bouquins avec les jeunes du Radiolab.
faire miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrée sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuade que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La panique les poussait à crier que la terre meurt et personne en a rien à branler. La méfiance les excitait, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie tout enflammé.